France Inter.
Le journal avec Fabien Fourel. Bonjour Fabien.
Bonjour à tous. Il souffle le chaud et le froid. Le Premier ministre israélien annonce tout à la fois la reprise des livraisons terrestres de marchandises à Gaza, tout en dévoilant ce soir de nouveaux objectifs stratégiques avec la crainte de l'annexion de l'enclave. Une bouteille à la mer, 180 nations à Genève pour ratifier le premier traité de lutte contre le plastique. Ce n'est absolument pas gagné à l'heure qu'il est. La case maison pour l'ancien président brésilien Bolsonaro. Bolsonaro a signé à résidence en attendant son procès. Il n'a pas respecté l'interdiction de s'exprimer sur les réseaux sociaux. L'actualité, c'est encore le WhatsApp français, fortement conseillé aux ministres et aux préfets pour communiquer. L'un des membres du groupe de pirates Logbit, interpellé, groupe derrière l'attaque informatique de l'hôpital de Corbeil-Essonne, il y a 3 ans. La vague de chaleur, déjà sur la France, 38 degrés dans le sud-ouest aujourd'hui, elle fait même souffrir les machines à glace. Et un soleil bleu, peu banal, me direz-vous, il a pourtant été vu déjà des millions de fois.
Inter.
Benjamin Netanyahou marche sur un fil. Le Premier ministre israélien veut poursuivre la guerre à Gaza. Il devrait annoncer ce soir de nouveaux objectifs stratégiques. La presse israélienne parle même d'annexion de l'enclave. Et dans le même temps, face à la pression internationale, il réautorise ce mardi l'entrée partielle de marchandises privées. Bonjour Justine Leblon.
Bonjour Fabien.
Comment les ONG prennent-elles cette nouvelle ?
Eh bien, c'est une annonce loin d'être suffisante et surtout pas appropriée à la situation de la famine sur place, dénonce plusieurs ONG, car déjà ces biens qui vont pouvoir rentrer au sein de Gaza de manière contrôlée sont des biens marchands, donc pas forcément accessibles à tous, ce que regrette la porte-parole humanitaire d'Oxfam, Clémence Laguarda.
On parle de marchandises, c'est-à-dire de biens que les gens vont devoir payer après presque 2 ans de guerre avec une économie qui est complètement détruite. Il faut pour l'instant une entrée massive de biens distribués gratuitement pour permettre de répondre aux besoins qui sont énormes, que ce soit en termes de nourriture, d'accès aux soins, d'accès à l'eau et d'abri.
Alors il sera possible de payer ces marchandises, ces fruits et légumes, produits d'hygiène uniquement par virement bancaire. Ce système est géré par le COGAT, un organisme d'administration militaire israélien. Une manière, une fois encore, d'écarter les Nations Unies et les organisations internationales du terrain, selon Jean-François Corti, le président de Médecins du Monde.
Comme Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières et d'autres, qui sont des organisations indépendantes, impartiales, qui sont des professionnels à la fois de l'aide, mais qui aussi témoignent du non-respect des droits fondamentaux et du droit international humanitaire. Donc on voit que l'aide humanitaire est une variable d'ajustement, un outil pour continuer à mener à bien, et il faut bien le comprendre, une politique aujourd'hui qui probablement relève d'une volonté de recoloniser Gaza.
Jean-François Corti qui demande des sanctions économiques immédiates de l'Union européenne par exemple envers Israël pour contraindre le pays à laisser entrer toute l'aide humanitaire au sein de Gaza.
Justine Leblon, rédaction internationale de France Inter. Alors que les appels à stopper la guerre se multiplient après la tribune de près de 600 anciens hauts responsables des services de sécurité israéliens, c'est l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Élie Barnavi et l'historien Vincent Lemire qui exhorte aujourd'hui Emmanuel Macron à prendre des sanctions contre l'État hébreu. Monsieur le Président, si des sanctions immédiates ne sont pas imposées, vous finirez par reconnaître un cimetière. Une personne placée ce matin en garde à vue à Amiens après la découverte de ce corps égorgé, éventré sur un terrain de sport hier. La victime est âgée de 32 ans. Une autopsie doit avoir lieu aujourd'hui. Le grand déballage commence à Genève contre le plastique. On a déjà dit tout l'enjeu, il va tripler d'ici 2060. Les négociations se sont ouvertes ce matin pour tenter d'écrire le premier traité mondial visant à réduire ce fléau, 180 pays sur place. Cela fait 3 ans que les Nations Unies planchent sur ce texte. Bonjour Célia Kiré.
Bonjour Fabien.
Sauf qu'une fois de plus, eh bien, les discussions s'annoncent très très compliquées.
Oui, parce que les pays pétroliers, Arabie Saoudite et Russie en tête, ne veulent pas de traité qui limite la production de plastique à la source. Pas question de couper le robinet. Ils ne veulent rien de contraignant. Idem pour les États-Unis qui préfèrent axer les discussions sur l'élimination des déchets. À Busan, en Corée du Sud, les négociations avaient échoué lors de la dernière session. Là, c'est la dernière chance. Parmi les 180 pays présents à Genève, seule l'Union européenne et les petits États insulaires plaident pour réduire cette pollution à l'origine, ce qui serait le plus efficace. Un échec est donc possible, d'où l'impatience ce matin du président des négociations, le diplomate équatorien Luis Vallas Valdivieso.
Nous affrontons une crise mondiale. La pollution plastique affecte les écosystèmes, elle abîme notre océan, les rivières, elle menace la biodiversité, la santé et elle impacte les plus vulnérables. L'urgence est réelle, l'évidence est claire et la responsabilité est la nôtre. Personne n'est favorable à la pollution plastique, mais jusqu'à présent, personne n'a trouvé de moyen efficace pour l'arrêter.
De leur côté, les États insulaires demandent de l'aide d'urgence pour dépolluer leur environnement, mais le consensus, là aussi, sera difficile. Sur certaines îles, la pollution plastique menace la pêche, le tourisme. Or, plus le temps passe, plus les déchets s'entassent. Si aucun accord n'est trouvé, la pollution plastique triplera d'ici 2060.
Célia Kiré, service environnement de France Inter. Une planète en souffrance. Au Japon, le thermomètre vient d'enregistrer une température historique, 41,8 degrés, température la plus élevée jamais enregistrée. Tandis qu'à Pékin, plus de 82 000 habitants exposés à des pluies torrentielles ont été évacués. Une semaine après des intempéries meurtrières, au moins 44 morts et 9 disparus. Le risque d'inondation demeure. Des pluies torrentielles également à Hong Kong, un cumul de précipitations jamais vu pour un mois d'août depuis plus de 140 ans. L'étau judiciaire se resserre au Brésil contre l'ancien chef d'État d'extrême droite, Jair Bolsonaro, assigné à résidence désormais, avant même l'issue de son procès pour tentative présumée de coup d'État. Il encourt plus de 40 ans de prison. Valérie Crova, c'est une nouvelle étape majeure dans le bras de fer qu'il oppose à la justice brésilienne.
Aucune visite à l'exception de ses avocats ou dérogation de la Cour suprême et pas de téléphone portable. C'est la sanction imposée par le juge Moraes, celui-là même qui est en charge du futur procès de Jair Bolsonaro. Le magistrat reproche à l'ancien président d'avoir réagi depuis son domicile aux manifestations de ses soutiens dimanche, les plus importantes depuis des mois. Dans une vidéo filmée par un tiers, on voit Jair Bolsonaro assis sur une chaise, portant un bracelet électronique. Il remercie les manifestants, parle de liberté. Pour le juge Moraes, considéré comme son ennemi intime, Jair Bolsonaro n'a pas respecté les ordonnances qui lui sont imposées depuis juillet, dont l'interdiction de recourir aux plateformes numériques. Tout nouveau faux pas entraînera une détention provisoire, a prévenu le magistrat, visé la semaine dernière par des sanctions financières du département américain du Trésor, en représailles aux poursuites intentées contre l'ancien chef d'État brésilien qui a reçu le soutien de son ami Donald Trump.
Valérie Crova, l'accord franco-britannique prévoyant le retour en France de migrants arrivés dans des petits bateaux au Royaume-Uni entre en vigueur aujourd'hui, conclu lors de la visite du président Macron en Grande-Bretagne début juillet, en échange de son engagement, Paris pourra envoyer des migrants se trouvant en France au Royaume-Uni. C'est l'un des groupes cybercriminels les plus connus, avec à son compte plus de 2500 victimes, dont plus de 200 en France, parmi lesquelles l'hôpital de Corbeil-Essonne il y a 3 ans, le groupe Lockbit, spécialisé dans les rançongiciels. On apprend aujourd'hui l'un de ses membres, interpellé le mois dernier en Ukraine. Il avait à son actif plusieurs faits en France. Bonjour Pierre de Cossette.
Bonjour.
C'est un nouveau coup porté à ce groupe en perte de vitesse.
Oui, parce que Lockbit, c'est une sorte de franchise avec d'un côté les cerveaux, les concepteurs du logiciel malveillant, et de l'autre, les pirates, les hackers, ce qu'on appelle aussi les affiliés. Eux se servent du virus pour attaquer les entreprises, les mairies, les hôpitaux, et demander une rançon, parfois plusieurs millions d'euros, dont ils reversent un pourcentage aux concepteurs. Mais depuis l'an dernier, et une opération judiciaire internationale baptisée Chronos, Lockbit a été sérieusement touché, et les affiliés ont tendance à quitter le navire, comme l'explique le général Hervé Pétri, qui commande les gendarmes de l'unité nationale cyber.
Ce qu'on peut dire, c'est que ces affiliés, ils vont vers les plus offrants, donc ils s'abonnent à différentes offres de criminalité en achetant, encore une fois, des rançongiciels pour les mettre en œuvre à des fins d'extorsion. Je pense qu'on peut dire Lockbit est affaibli, son système n'est plus aussi attractif, donc oui, il a perdu en crédibilité.
Pour autant, les autorités préviennent, Lockbit n'est pas mort et les enquêtes sont complexes avec des pirates qui opèrent souvent depuis des pays pas vraiment amis, avec lesquels la coopération n'est pas simple. Le fondateur de Lockbit, par exemple, vit paisiblement en Russie. L'an dernier, le FBI avait promis 10 millions de dollars pour qui aiderait à l'arrêter.
Pierre de Cossette, merci à vous. La crainte de la cybermalveillance jusque dans les cabinets ministériels. Une circulaire de Matignon demande aux membres du gouvernement, à leur cabinet, mais aussi au préfet, d'installer l'application française Tchap, application de messagerie cryptée pour remplacer WhatsApp ou Telegram. Elle a été développée par la direction interministérielle du numérique et Timur Öztürk. Les ministères sont vivement priés de s'en servir.
C'est une question de souveraineté. Quand des ministres échangent sur une application américaine comme WhatsApp, un risque existe, une intrusion technique ou juridique d'un pays étranger pour lire leur message, rappelle la circulaire du Premier ministre. Elle invite donc les membres du gouvernement et leurs équipes à utiliser CHAP.
CHAP est la messagerie instantanée officielle du secteur public. CHAP est surtout la promesse d'une messagerie complètement sécurisée, conçue, développée et hébergée en France.
L'application a déjà été téléchargée par 600 000 agents publics, assure le site dédié du gouvernement. Qu'en est-il dans les ministères, chez les politiques très friands d'applications comme Telegram ou WhatsApp? L'entourage de Clara Chapaz, ministre déléguée au numérique, assure déjà utiliser la messagerie pour tous les échanges professionnels. Mais le conseiller d'un autre ministre assume ne jamais l'utiliser car il la trouve aussi pratique qu'une valise sans poignée. Les ministères ont jusqu'à la rentrée pour changer leurs habitudes. En 2023, une précédente circulaire pour instaurer l'usage d'une autre application de messagerie française n'avait pas rencontré un franc succès au sein du gouvernement.
Timur Özturk lui a choisi YouTube pour faire le service après-vente de son plan d'économie. François Bayrou lance cet après-midi une série de vidéos sur la plateforme en ligne pour expliquer les tenants et les aboutissants du futur budget pour faire de la pédagogie. Plus aucun retard sur la ligne LGV Nord entre Paris et Lille après cet incident électrique hier qui aura entravé la circulation des trains jusqu'à ce matin. Un incident au cœur de l'été, un an quasiment jour pour jour après l'été olympique où la SNCF avait tenu sa place. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Les années se suivent et ne se ressemblent pas et Maxime, les syndicats de la SNCF ont leur explication.
Une explication simple, basique, c'est que tout fonctionne mieux lorsqu'on est plus nombreux et qu'on y met aussi les moyens. L'an dernier, tout le monde, tous les cheminots étaient sur le pont mobilisés, une prime JO pour inciter les équipes, 95 euros bruts par jour, ce qui avait d'ailleurs permis de rétablir dans un temps record, souvenez-vous, la circulation des trains le jour de la cérémonie d'ouverture quand la SNCF avait été visée par un acte de vandalisme, cauchemar de tous les chefs de gare. Aujourd'hui, on est loin du temps des JO, les syndicats l'admettent, le regrettent, même si une panne peut arriver, force est de constater qu'il y a un an, il n'y avait pas moins d'incidents, mais on les réglait tout de suite parce qu'on pouvait. Le souci, c'est qu'il manque du monde, déplore un syndicaliste, avec, dit-il, un tiers des effectifs en moins en août et des difficultés à recruter dans la maintenance, même si la direction fait des efforts ces dernières années. Tout ça donne 17 Eurostar supprimés, des TGV restés à quai hier et un trafic qui a enfin pu reprendre normalement après des travaux qui auront duré toute la nuit.
Maxime Debs, service éco de France Inter. Marché conclu, mesure de rétorsion effacée. Bruxelles annonce ce midi qu'elle suspend ses représailles aux droits de douane de Donald Trump après l'accord commercial conclu avec les États-Unis. À l'étranger encore, en Ukraine, les combats se poursuivent ce matin. L'armée russe affirme avoir conquis un nouveau village dans le centre-est du pays. Chaud devant dans le sud de la France, jusqu'à 38 degrés attendus ces prochaines heures. On parle encore d'une vague de chaleur comme à Arcachon sur la côte atlantique où les glaciers font le plein. Théo Cobel, ici Gironde.
La crème glacée coule déjà sur ses doigts mais Maxence, 4 ans et demi, savoure chaque bouchée.
Mais non, parce que vous dégoûtez.
Et ça fait du bien la glace ?
Oui.
Un petit moment de plaisir sous l'œil attentif de sa maman Pauline qui a elle aussi succombé.
Melon, vanille, ça rafraîchit. Après c'est le plaisir aussi du sucre, la petite glace sucrée. Bah nous on a eu la pluie tout le mois de juillet donc j'avoue qu'on est bien là.
Des clients qui en profitent et des glaciers qui se préparent car paradoxe, la chaleur n'est pas leur meilleur allié. Certes, elle ramène du monde mais aussi les soucis.
Les machines chauffent trop.
Damien est le gérant de Ducroglace.
Là d'ailleurs elle est cassée, elle a chauffé, c'était juste avant le 14 juillet, c'est tellement qu'il faisait trop chaud.
Alors désormais, il est fin prêt pour affronter la remontée des températures.
On met des ventilateurs partout parce qu'elle chauffe trop. Et comme c'est dans un magasin, c'est un peu compressé, les chaleurs, pour que ça refroidisse.
Même la glace a besoin d'être
rafraîchie. Elle a besoin d'être rafraîchie, oui. Là, ça y est, ils sont branchés, là. Ouais. Dès qu'il fait un peu chaud, au mieux, ça les aide.
Reste ceux qui ont compris que la fraîcheur, elle, se trouve en mer. Angélique vient d'acheter un billet pour une sortie en bateau.
Parce que justement, jeudi, ils annoncent une température assez haute et on s'est dit qu'on serait mieux sur l'eau plutôt que sur la terre.
clair.
Jeudi qui sera effectivement la journée la plus chaude avec 36 degrés attendus à Arcachon avant une légère baisse des températures annoncée à partir de vendredi.
Et dans quelques instants, on fera un point complet sur les dernières prévisions de cette vague de chaleur avec Sébastien Léas de Météo France. La Gironde placée en alerte maximale pour les courants de Baïne sur le littoral, courant particulièrement fort demain et jeudi. Les nageurs pourraient se retrouver en difficulté. Ils sont appelés à la plus grande prudence par la préfecture. L'an dernier, les Baïnes avaient entraîné la mort de 14 personnes sur le littoral atlantique. Et voici à présent une découverte archéologique sur un ancien camp de concentration nazi au Struthof, en Alsace. Des fouilles depuis 5 ans viennent de mettre au jour les vestiges d'une forge où devaient travailler les déportés. Elle avait disparu sous la végétation et les arbres, comme le raconte Ludwig Diot, l'un des archéologues.
Alors là, on se trouve dans les fondations de la forge. Il y avait une forêt vierge pratiquement qui avait repoussé dessus, une épaisseur d'humus, des arbres qui atteignaient parfois 15 mètres de haut, des petits sapins, donc on voyait plus du tout le bâtiment. On a vraiment fouillé, dégagé l'humus, creusé, etc.
Qu'est-ce que vous avez retrouvé ?
Par exemple, des petits outils, des compas, etc. Des clous, des fragments de vitres. Là, dans les abords du bâtiment, on a trouvé les systèmes d'alimentation électrique avec les câbles, les protections des câbles. La carrière, finalement, c'est une zone qui a été mise de côté pendant très très longtemps, alors que c'est une zone centrale pour le camp, puisque le camp est construit à cause de la carrière. Et pas l'inverse. Les déportés venaient travailler ici, c'était un travail particulièrement difficile, physique, en extérieur, donc c'est un peu le cœur du camp.
Voilà, Ludwig Diot, l'un des archéologues sur ces fouilles au Struthof. Un appel aux dons est lancé via la Fondation du Patrimoine, sachez-le, pour boucler le financement d'un préau et protéger le site. L'équipe de France de basketball remporte son premier match de préparation à l'Euro. Les Bleus se sont imposés face au Monténégro hier soir, 81 à 75. La rencontre se disputait en Vendée. Oh, laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau, la tête en feu. Je viens de vous citer un passage des paroles du tube de l'été. Le titre Soleil Bleu dépasse même désormais le chanteur Gims. Signé d'une franco-brésilienne pourtant méconnue du public, la chanteuse Louisa. Bonjour Nicolas Piquet.
Bonjour à tous.
La chanson cumule déjà des millions d'écoutes.
Une ambiance électro-reggae, un rythme chaloupé qui vous est très certainement familier. Soleil bleu qui cartonne sur les plateformes d'écoute, plus de 17 millions de streams sur Spotify, à la deuxième place du Top France, une immense popularité aussi sur les réseaux sociaux, rien que sur TikTok, plus de 100 000 vidéos utilisent le son qui s'est répandu partout.
On savait que c'était un peu un hit quand même, mais de là à ce que ça fasse des stats comme ça, on n'en revient pas.
Antonin Parmentier fait partie du duo Bleu Soleil qui a composé la musique.
C'est fou de recevoir des messages d'un peu tout le monde, voir que tout le monde en fait a entendu parler du son. On nous a envoyé du coup la story d'Emmanuel Macron, de stars aussi comme Pierre Niney. Enfin tout le monde connaît le son quoi, c'est dingue.
Et tout a commencé avec un simple message envoyé à la chanteuse franco-brésilienne Louisa que le groupe admire. Elle est venue enregistrer la musique dans leur chambre, raconte Nino Ferdig.
On a loué un micro sur Paris, on a mis 20 euros chacun et elle est venue, elle a enregistré le refrain en one shot direct, ça s'est super bien passé et voilà.
Et Louisa va sortir un album en fin d'année et Bleu Soleil a un EP 2026 pour continuer de nous faire danser.
Nicolas Piquet du service Culture Écran de France Inter, on imagine que vous l'avez dans les oreilles. Je viens de vérifier quand même, le tube de l'été le plus écouté reste Despacito. Souvenez-vous, en 2017, 4,5 milliards de vues sur YouTube, plus de la moitié de l'humanité quand même.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Fabien, bonjour à tous.
Après-midi, bien ensoleillé.
Oui, le soleil sera radieux sur l'Occitanie, le Lyonnais, les Alpes, la Provence et la Corse. Attention, le danger feu est élevé dans la région et même très élevé dans l'Aude à cause du réveil de la tramontane. L'après-midi se passera aussi sous le soleil et les belles éclaircies des côtes de la Manche à la Vendée et au Poitou jusqu'au centre-val de Loire et à la Champagne-Ardenne. Alors le ciel sera parfois un peu plus laiteux sur la Bretagne et la Normandie à cause de fumée des incendies américains qui ont traversé l'Atlantique. Mmh. Ce temps ensoleillé gagnera progressivement du terrain sur la Lorraine, le Nord-Alsace et le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Sur le Pays Basque, le ciel sera parfois plus mitigé puisque des grisailles persistent. Et puis sur une bande allant des Landes et de la Dordogne au Jura et au Haut-Rhin en passant par le centre-Val de Loire, on retrouve les restes d'une perturbation qui a balayé le nord-ouest. La couche neigeuse sera morcelée, elle laissera apparaître des éclaircies, mais quelques pluies résiduelles pourront encore se faire remarquer entre les Vosges et la Franche-Comté. Dans le sillage de cette perturbation, de l'air frais envahit d'ailleurs un large quart nord-ouest, alors qu'à l'avant de ce petit front, l'air chaud persiste avec de fortes chaleurs. Cet après-midi, il fera d'ailleurs jusqu'à 38 degrés à Nîmes, 35 degrés à Perpignan, 34 degrés à Corté ou encore 33 degrés à Toulouse et à Lyon, alors qu'on attend 21 degrés à Rouen et Saint-Brieuc, 23 degrés à Lille et 24 degrés à Paris, Nancy et Orléans.
Sébastien Léas, on reste donc au frais à l'écoute de France Inter.